philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 31 octobre 1990.
Vous avez dit au dernier cours que quand ce qu'on expérimente est artificiel, le jugement d'existence se termine à qualité, mais pas à l'être, pas à la réalité. Pouvez-vous expliciter la différence entre ce jugement d'existence et celui qui porte sur une réalité naturelle? Peut-on dire que la qualité de la réalité artistique, artificielle, fait écran à la réalité, tandis qu'elle la manifeste dans les réalités naturelles? Très bien. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, hein, le jugement d'existence est une méta-expérience. Quand je vois une réalité artificielle faite par l'homme, une église, c'est bien évident que c'est une réalité, qu'elle existe. Mais je m'arrête avant tout à la forme artistique. C'est ça qui m'intéresse. Puis je vois que c'est de la pierre, ou du marbre, ou du bois. Le chemin d'existence, c'est pas ça qui est l'expérience artistique, c'est évident. L'expérience artistique comme telle est déterminée, spécifiée par la forme artistique. Mais cette forme existe dans une matière. Donc, je peux, là aussi, à partir d'une expérience artistique, atteindre l'existence de la réalité. Exactement comme une réalité physique. Je vois son devenir. Je vois cette feuille, ce tronc d'arbre, cet arbre. L'expérience est tel arbre. Je peux, à partir de la nature, la détermination de la nature, saisir l'exister. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose d'analogue, et c'est très vrai que la forme artistique se manifeste. Et donc, elle peut être un écran. C'est pour ça que facilement, l'artiste idéalise. Et pour l'artiste, l'exister est matériel. Ce qui est intéressant, c'est la forme. Pour la nature, l'exister n'est pas matériel. C'est nature-forme, nature-matière. C'est les deux. Vous voyez ? C'est là où on voit la différence entre les deux. C'est pour ça que l'expérience artistique peut très bien être un écran. Pourquoi dit-on que les sensibles communs sont de l'ordre de l'expérience interne et non de l'expérience externe? Oui. Les sensibles, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait ça, on n'a pas dit tout à fait ce point de vue-là, c'est transposé ça. Il y a des sensibles propres, internes, mais qui ne sont pas saisis de la même manière. Quand je saisis l'amour, je sens, j'ai l'expérience que j'aime. J'ai l'expérience que je connais. Vous voyez, je ne regarde pas les sensibles communs. Je suis dans l'expérience de ma vie intérieure. Faisons attention, c'est pas ça que j'ai dit. Les sensibles internes et les sensibles communs et les sensibles propres, c'est à partir de l'expérience externe qu'on fait cette distinction. La distinction entre l'expérience interne et l'expérience externe, c'est autre chose. C'est à partir de ma vie spirituelle, de ma vie imaginative, cauchemar cette nuit. Parce que vous n'êtes pas réveillé à 4h du matin, alors. Vous avez vu un cauchemar à partir de 4h. Vous deviez vous lever, vous n'êtes pas levé. Vous étiez enchaîné, vous êtes resté dans votre lit. Vous n'avez pas été courageux. Ainsi de suite. Un cauchemar, c'est ni le sensible commun, ni le sensible propre. C'est quoi? C'est l'imagination. Dans l'imagination, il y a les sensibles communs, les sensibles propres. Mais dans l'imagination, les sensibles communs sont premiers et les sensibles propres sont en second lieu. Mais faisons attention, la distinction sensible commun, sensible propre, c'est pas la même que expérience externe, expérience interne. Ça, il faut toujours faire grande attention. Quand on distingue quelque chose, de ne pas transposer cette distinction dans un autre domaine. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Expérience interne, expérience externe, c'est une distinction. Sensible propre, sensible commun, c'est une distinction qui se prend en premier lieu à partir de l'expérience externe. Je touche cette table. Cette distinction peut se retrouver dans l'expérience interne, mais ce n'est pas là où je la fais en premier lieu. Vous comprenez ça? J'espère. Vous voyez, quand vous faites l'expérience de votre vie spirituelle, j'aime, je connais. Mais c'est une expérience. Est-ce que c'est sensible pour vous, sensible commun? C'est pas ça que vous posez la question. C'est l'expérience de votre vie intérieure. C'est du vécu intérieur. Le vécu intérieur ne se termine pas à votre sensibilité. Il est intérieur. Il se termine à votre imagination. Parce que dès que vous êtes dans les sensibles communs, les sensibles propres, vous êtes devant quelque chose d'extérieur. Mais vous pouvez transposer cette distinction dans votre imagination. Dans le chemin d'existence, ceci est. Pourquoi dit-on que le ceci est relatif à et c'est ce que nous allons voir. Et non est relatif à ceci. On dit les deux. C'est important de savoir si on parle de chat ou de pôle. Oui et non. On va revoir ça. Ne vous inquiétez pas. Peut-on dire nous ne pouvons pas si on est en face de l'aristotélisme? Alors, est-ce que Thomas d'Aquin fait la synthèse des deux? C'est vrai que dans l'histoire de la philosophie, on ne peut pas nier que toute la philosophie grecque est objective, tend vers l'objectivité. Même Plotin, il la refuse pas. Tandis qu'à partir de Descartes, on entend la philosophie du primat de la conscience, donc de la subjectivité transcendantale. Il y a deux aspects tout à fait différents. Peut-on en faire la synthèse? Comment faire la synthèse et peut-on faire la synthèse? C'est intéressant parce que on trouverait par là une certaine continuité et non pas une rupture. Vous voyez, Gilson souligne la rupture de cette manière. Penser ordonnée à l'être. Au contraire, l'inverse, c'est-à-dire penser mesure l'être. Est-ce que penser est premier? Pardon. Est-ce que penser est premier? Est-ce que penser est second et être premier? Est-ce que penser est relatif à ce qui est? Ou est-ce que ce qui est relatif à penser? ceci varie et ne varie pas. Donc, la variante est relative à ce qui ne varie pas. Donc, ceci est relatif à E. J'ai donc ceci est relatif à E. Dans ma pensée, je peux très bien faire ça. Et c'est ce que Raissa appelle l'intuition de l'être. Donc, je peux faire l'un ou l'autre. Si je mets l'accent sur le ceci, je regarde ce que c'est que la vache, ce que c'est que le chat, ce que c'est que moi. Très bien, ça, je l'ai déjà fait, puisque nous avons eu toutes les autres expériences antérieures. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est quand je relative ceci à « est ». Et je me dis, alors, qu'est-ce l'être ? Puisque je regarde « est » comme l'absolu. Et si je regarde « est » comme l'absolu, je prends la forme de l'infinitif. Et c'est « est » qui devient le centre d'intérêt. Et tout regarde « est ». Qu'est-ce que c'est connaître ? Voyez donc que la métaphysique commence par l'interrogation. Qu'est-ce que c'est connaître ? Tant que je reste sur le ceci, vache, chat, moi, je ne suis pas encore dans un regard métaphysique. Puisque la vache, philosophie du vivant, le chat, philosophie du vivant, c'est fait. Moi, philosophie du vivant, où je travaille, moi. Je mange. Je dors. Mes activités. Tandis qu'il y a quelque chose de fondamental que je n'ai pas encore traité en philosophie. Qu'est-ce que c'est connaître ? Mais voyez, pour cela, il faut relativiser tous les soucis. Et je regarde « et » pour lui-même. Et à ce moment-là, je me pose la question, qu'est-ce que c'est connaître ? Puis-je faire la même chose avec « je suis » ? Bien, je dis non. Donc, je ne peux pas entrer en métaphysique par le « je suis ». C'est ce que Salomon montrait. Ça, c'est très important, parce que ça montre que toute la philosophie qui commence par la subjectivité ne rentrera jamais dans la métaphysique. Donc, il n'y a pas de métaphysique, il n'y en a qu'une. Donc, vous voyez que c'est capital, ça. Absolument capital. Ça, il faut le voir, il faut le comprendre, il faut le saisir, il faut que ce soit pour vous une évidence. Que vous ne puissiez pas dire, ah, il y a deux métaphysiques, une métaphysique réaliste, une métaphysique subjective. Non, il n'y en a qu'une. Alors pourquoi ? Quand je dis je suis, ce n'est pas la vache. La vache existe, le chat existe. Quand Raissa a dit je suis, elle savait très bien que ce n'est pas le chat. Alors, quand vous dites « je suis », vous ne pouvez pas varier le jeu. Le jeu ne se varie pas, il ne se relativise pas. Puisque « je », ce n'est pas toi. « Je », ce n'est pas ceci, autre que moi. Le « je » contient le « ceci », c'est sûr. Mais il contient tel ceci, un unique ceci, moi, je suis. Donc je saisit d'une manière telle qu'il est unique. Et c'est vrai, le jeu est unique. Il est saisi dans l'immanence, d'une façon telle qu'il absorbe l'être. Je suis. Je ne peux pas séparer. Il y a une identité absolue entre le je et celui. S'il y a une identité absolue entre le je et celui, vous ne pouvez pas mettre en pleine lumière l'être. Vous voyez ? Et c'est bien ce qui est... Parce que l'expérience interne qui est impliquée dans le je suis est trop forte. Elle empêche de dévoiler l'être. Mais surtout parce que le je étant quelque chose d'unique,
on a l'intuition.
tandis que le jeu est immanent. Donc, dans le ceci est, vous atteignez quelque chose qui vous transcende. Dans le je suis, vous n'atteignez rien du tout qui vous transcende. C'est vous. C'est l'immanence. Et l'immanence, vous l'atteignez sous un mode intentionnel. Et la transcendance, vous l'atteignez comme quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est capital, hein, je vous le dis tout de suite. Tant que vous n'avez pas saisi la différence de ça, on peut continuer, hein. Mais il faut y revenir tout le temps. Parce qu'il ne faut pas croire du tout que c'est facile. Ah, saisir nettement. Et vous voyez, c'est là où Maritain a fait une erreur. Parce qu'en restant dans l'intuition de l'être, il pense qu'il n'y a plus d'interrogation. Si c'est l'intuition de l'être, il n'y a plus d'analyse. Donc on n'analyse plus l'être, on a l'intuition. C'est très bien d'avoir cette intuition. C'est très bien de sentir que le ceci est capital. Mais je reste devant quelque chose que je n'analyse pas, donc que je ne connais pas. Nous allons maintenant entrer dans l'interrogation. Qu'est-ce l'être? Alors, j'ai dit que cette interrogation présupposait une sorte d'intuition de l'être. Et cette intuition de l'être me met dans un état d'admiration. Pour que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» puisse se poser à partir du jugement d'existence, ceci est répété. Il y a une sorte d'intuition. Il y a une sorte d'admiration. Toujours, l'interrogation naît à partir de l'admiration. Et non pas à partir de l'intuition. De ces en état d'alerte. C'est ça, c'est être en état d'alerte. Tout entier, en état d'alerte pour voir ce qui se passe. On admire. Quand on est en état d'admiration, il y a l'interrogation qui va naître. L'admiration éveille l'intelligence pour interroger. Tandis que l'intuition donne à l'intelligence une plénitude. Je connais, j'ai l'intuition, j'ai l'évidence. Alors on ne recherche plus après. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand le facteur intuition est trop fort, l'admiration se tait. Et il n'y a plus d'interrogation. Mais, alors, au point de vue critique, il faut bien comprendre expérience, intuition, admiration, interrogation.
Vous en avez l'expérience.
document d'existence, mais en lumière. Et toute cette diversité des ceci se relativise en face de l'être. D'où il y a l'intuition, mais cette intuition me montre le dépassement du jugement d'existence par rapport à l'expérience. Donc cette intuition me permet de faire la distinction entre expérience et méta-expérience. Le jugement d'existence, c'est ça que l'intuition. Mais l'intuition ne me dit pas ce que c'est que l'être. Toute cette intuition est à l'origine de l'admiration. L'être dépasse le chat. L'être dépasse le chien. L'être dépasse Raïssa. L'admiration devant l'être. Il faut admirer l'être avant de l'interroger. Si vous ne l'admirez pas avant d'interroger, vous ne le regardez pas. Et vous revenez au ceci, au chat, à la carotte et tout ça. Vous revenez à la multiplicité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'être, l'admiration. Et une fois que j'admire, j'interroge. Parce que je veux savoir. L'admiration éveille l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Là aussi, c'est très très important de bien distinguer ces petits moments. Vous voyez ? Et on revient, et c'est l'intérêt, on revient à l'importance de l'interrogation. Ce que Heidegger, ce que Merleau-Ponty ont remis très en lumière. Et ça, c'est intéressant. Quand Merleau-Ponty dit « l'idéaliste n'interroge plus ». Donc, Merleau-Ponty a compris qu'il fallait sortir de l'être civilisé, conventionnel, pour revenir à l'être sauvage. C'est l'être sauvage que j'admire. Et c'est l'être sauvage qui me fait poser l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et là, je sors de l'idéalisme. C'est l'interrogation. L'idéaliste n'interroge plus. Il est dans le vécu. Il faut sortir du vécu. Et c'est sûr que Merleau-Ponty et Heidegger sont sortis de l'idéalisme grâce à l'interrogation. Et nous revenons à Socrate. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation. Mais comment faire un pont, hein ? C'est ça qui est intéressant. On revient à Socrate. Quand Socrate se trouvait devant les gens qui savaient, il les interrogeait. Ah, vous dites ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous savez ce que vous dites ? Vous savez pas très bien ce que vous dites. Vous voyez, devant un article de journaliste, on aimerait... Mais vous affirmez ça, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous dites en disant ça ? Vous savez pas. Parce que deux phrases après, vous contredisez. Donc vous savez pas du tout ce que vous dites. Les sophistes parlent et ils savent pas ce qu'ils disent. D'où on les interroge. Pour les ramener à dépasser leur langage. Parce qu'ils parlent bien, ils enveloppent tout dans des papiers neufs, merveilleux, avec de merveilleux dessins, pour qu'on ne regarde plus ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est l'astuce, des très beaux papiers, vous savez. Quand vous allez chez acheter quelque chose, on enveloppe d'un très beau papier magnifique, extraordinaire. C'est pas très ancien, ça, c'est nouveau. Il y a 20 ans, on faisait pas ça. L'apparence. On a compris que le papier, c'était très important. Quand vous offrez un petit cadeau, le papier, c'est très important. C'est la première chose que vous voyez. Si vous avez un sale papier, il n'y a rien à dire. Si c'est un beau papier, merveilleux, étincelant, c'est le langage, le papier. On enferme tout ça. Alors, Socrate interroge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai déjà dit, il faut de temps en temps être Socrate. J'ai fait une fois devant quelqu'un qui à Fribourg faisait une conférence mirobolante. Un jeune normalien agrégé les 10 sauves de la suite. Écoutez, vous avez le droit, dans un examen, d'employer des mots dont vous ne comprenez pas le sens. Vous enveloppez le paquet, le cadeau, la conférence que vous faites, d'un merveilleux paquet. Vous avez le droit. Si votre professeur n'est pas intelligent, il vous donnera une note merveilleuse, parce que vous avez bien parlé. Alors, est-ce que l'examen, c'est bien parler, ou c'est dire quelque chose d'intelligent? Vous n'avez pas le droit de faire une conférence uniquement avec un beau papier qui enveloppe le contenu. Et le contenu, il n'y a rien. Il n'y a rien de contenu dans ce que vous avez dit, puisque vous ne savez même pas ce que vous dites. Alors, il m'a serré la main. Il m'a dit, merci mon père de me dire ça. On m'a jamais dit ça. On m'a dit au contraire qu'il fallait envelopper avec des mots magnifiques. Et c'est vrai. Je dis, oui, vous m'avez fait perdre une heure.